Bon réveil avec Europe 1, il est 8h.
Les investissements sont là, 40 millions ces dernières années. Il faudra le pérenniser, puisque nous restons en compétition avec les autres pays européens qui ont la même démarche que notre gouvernement.
Comme cette dirigeante d'une entreprise danoise, 985 groupes étrangers ont choisi la France en 2020 pour investir, ce qui en fait la championne d'Europe de l'attractivité pour la deuxième année consécutive. 16 mois de crise sanitaire et de rivalité avec Bruxelles, mais Strasbourg accueille à nouveau une session du Parlement européen. La ville compte bien réaffirmer ses points forts. Et puis une innovation de pointe dans le domaine médical, un robot pharmacien d'hôpital capable de préparer ultra précisément des milliers de poches de traitement contre le cancer. Nous serons au CHU de Lille. Le journal de Roland-Garros à suivre et votre interview politique, Sonia Mabrouk.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Mon invité, c'est l'ancien négociateur de l'Union européenne sur le Brexit et ex-ministre Michel Barnier, auteur de La Grande Illusion. Il compte bien peser en vue de 2022 et ne veut pas que ce soit une illusion justement. Rendez-vous 8h15.
À tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h avec vous François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour et bravo à la France qui remporte l'euro. L'euro de l'attractivité économique, d'accord, mais prenons les matchs les uns après les autres avec donc cette bonne nouvelle selon le baromètre du cabinet EY. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour, bonjour à tous.
Du service économie d'Europe 1, la crise sanitaire a autant ralenti les projets d'investissement étrangers en France que la crise financière de 2008, mais nous restons numéro 1 en Europe.
Eh bien oui, la France est le pays qui a attiré le plus d'investisseurs étrangers l'an dernier devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Sur le podium des régions les plus attractives, vous avez l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. 341 projets au total, en priorité dans les secteurs de la santé, de la logistique et des services financiers. Parmi ces projets, vous avez par exemple le Suédois Scania qui a annoncé la création de 250 emplois dans le Maine-et-Loire avec une nouvelle chaîne de montage de camions électriques. Mais vous avez aussi le Thaïlandais Indorama, spécialisé dans la chimie, qui investit 35 millions d'euros dans la Meuse, ou encore Coca-Cola, Siemens, Ericsson ou le géant américain de la lessive, Procter & Gamble. Alors en 2017, nous n'étions que troisième, mais clairement Emmanuel Macron a fait de cette conquête de la première place son cheval de bataille et ça marche. Il pourrait être plus difficile toutefois de la conserver cette année. Selon l'enquête d'Ernst & Young, plus d'un dirigeant étranger sur deux prévoit de diminuer ses projets d'investissement en 2021. Le temps de voir comment se passe la relance.
Merci Carole Ferry. 985 décisions d'investissement étranger en France recensées par cette étude.
Mais c'est la perception de la France qui a changé, nous disait Nicolas Barré dans son éclairage écho tout à l'heure à 7h15. Et justement, la perception de Strasbourg peut-elle changer aussi?
Retour des eurodéputés dans la capitale alsacienne pour une semaine. Vous savez que le Parlement européen a un hémicycle à Strasbourg, un autre à Bruxelles. C'est ce dernier qui avait raflé toutes les sessions depuis le début de la pandémie, quand ce n'était pas en visioconférence. L'enjeu est aussi économique. Arthur Mbaché.
Ça frémit dans le logiciel de réservation de Pierre Siegel du 4 étoiles Monopole Métropole, près de la gare ici à Strasbourg. En temps normal, les sessions parlementaires, c'est 15% de son chiffre d'affaires annuel. Après presque un an et demi d'absence, les eurodéputés sont de retour. Enfin, des eurodéputés sont de retour.
Il y a deux choses. Il y a, youpi, les parlementaires reviennent parce qu'il était urgent que le Parlement européen retrouve sa maison. Maintenant, dans le sens où c'est une version hybride, on sait que voilà, il y a beaucoup de gens qui vont rester soit chez eux, soit à Bruxelles. Et donc, habituellement, il y a à peu près 4000 personnes qui se déplacent pour une session. Là, s'il y a 1000 personnes, je pense que ça sera le bout du monde.
Jeanne Barseguian est la maire écologiste de Strasbourg.
C'est du soulagement. La majorité des députés européens, le premier, le président David Sassoli, ils nous disent être heureux de rentrer à la maison. C'est aussi le fait de dire qu'on ne veut pas centraliser, concentrer tous les pouvoirs au même endroit, mais qu'au contraire, une Europe riche et la plus inclusive possible, eh bien c'est une Europe qui partage le pouvoir.
En arrivant ici tout à l'heure, les députés vont découvrir les nouveaux abords du Parlement européen. En un an et demi, des immeubles ont poussé. Ils sont à disposition de l'institution. Ça fait partie de la stratégie de la ville pour consolider sa dimension européenne. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
Il est 8h05 sur Europe 1. Quelle est sa stratégie à lui? Éric Zemmour laisse planer l'hypothèse d'une candidature à la présidentielle.
À tel point que Marine Le Pen l'appelle à ne pas affaiblir, dit-elle, le camp national. Sauf que visiblement, Éric Zemmour ne croit pas que la candidate du Rassemblement National est le bon projet pour la France. Interview hier soir du polémiste sur YouTube.
Je fais de plus en plus de propositions, je pense de plus en plus à comment mettre en application ce que je dis. Je pense tout simplement que ce qui manque à notre classe politique, c'est le diagnostic. Ils font des propositions dans le vide. Ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. De Marine Le Pen à Emmanuel Macron, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ils ont tous maintenant compris que la sécurité allait être au centre de la présidentielle. Donc, ils font tous des propositions sur la sécurité. Très bien. Mais le sujet, ce n'est pas la sécurité. La sécurité est un problème parce que nous vivons un changement de peuple et une guerre de civilisation sur notre sol.
Éric Zemmour. Deux enseignements à retirer des élections législatives partielles d'hier. Une participation dérisoire et la victoire de tous les favoris annoncés à Paris, dans l'Oise, en Indre-et-Loire, ainsi que dans le Pas-de-Calais, où Brigitte Bourguignon, ministre chargée de l'autonomie, est réélue face à une candidate du RN.
La politique encore avec le projet de loi bioéthique de retour dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Procréation médicalement assistée possible pour toutes les femmes, les couples de lesbiennes et les femmes célibataires. Est-ce bien la priorité du moment? Comment interrogent les opposants ? Réponse ce matin sur Europe 1 de l'ancienne ministre des Familles et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol.
La question c'est, est-ce que c'est vraiment la priorité du moment pour ceux qui déposent des milliers d'amendements pour bloquer le texte et empêcher le débat parlementaire d'aboutir ? C'est à eux qu'il faut poser cette question. Est-ce que bloquer la PMA pour toutes est la priorité du moment ? Sur un sujet sur lequel l'ensemble des enquêtes d'opinion que nous avons indiquent très clairement que les Français y sont favorables. C'est un engagement. Le Parlement, l'Assemblée nationale a déjà voté. À quoi ça rime de continuer pour les opposants?
C'est de l'obstruction parlementaire pour vous?
Oui, c'est de la tentative d'obstruction parlementaire. Ça se finira par l'adoption du texte. C'est juste du temps perdu.
D'un mot, Laurence Rossignol, vous ne croyez pas à ce que dit Olivier Véran. Un premier bébé né par PMA avant la fin du quinquennat, c'est possible?
Malheureusement, la PMA, c'est rare que ça marche la première, enfin, tout
la
de suite.
Du premier coup.
Donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura une femme, au moins une femme enceinte avant la fin du quinquennat.
Laurence Rossignol, au micro européen de Théo Manval.
Ce sont chaque année 60 000 traitements de chimiothérapie qui sont préparés au CHU de Lille. Et c'est un processus manuel.
Qu'un robot de pointe va venir soulager. C'est une première européenne, dosage plus précis et des personnels de l'hôpital qui peuvent se concentrer sur d'autres tâches. Lionel Gougelot.
Au centre d'une chambre stérile et surventilée, enfermé dans un box de verre, le bras articulé du robot saisit les composants de fabrication d'une poche de chimiothérapie.
Vous avez un système de gravimétrie, c'est-à-dire de peser de la dose.
Claude Sebag de l'entreprise Arxiom, conceptrice du robot.
Et la machine va recalculer la quantité de médicaments qu'il y a pour dire on est dans la précision nécessaire et elle garde la poche, elle la libère.
Dans quelques jours, ce robot pourra préparer pour l'hôpital 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des traitements anticancéreux de plus grande précision dans les dosages, assure le professeur Audou, responsable de la pharmacie du CHU.
Et donc avec ces systèmes-là, on va améliorer la qualité des préparations qu'on délivre à nos patients, tout en permettant à terme d'arriver à produire avec ces robots 60% de notre production actuelle.
Des préparations plus précises et plus rapides, ce qui améliore aussi le confort des séances de traitement des malades, selon Michel Vasseur, la pharmacienne.
Il y a certains jours où le patient attend plusieurs heures sa préparation de chimiothérapie. L'idée, c'est d'anticiper certaines préparations standards et qui permettent justement de réduire le délai d'attente du patient.
Une technologie qui permet aussi de libérer du temps pour la fabrication de traitements plus complexes, assurés manuellement, cette fois par des équipes de préparateurs. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et puis elle s'appelle Lilibet Diana, deux prénoms en hommage à la reine d'Angleterre et à Lady Di. Le deuxième enfant de Meghan Markle et du prince Harry est né hier. Elle est huitième dans l'ordre de succession au trône britannique. Elisabeth II se dit ravie de cette nouvelle. Ce matin, le tabloïd Sun salue un grand geste pour réparer la faille entre la famille royale et le couple exilé aux États-Unis. Welcome Lilibet, s'enthousiasme le Times de Londres.
Comme quoi, un simple prénom va peut-être réconcilier la famille, sait-on jamais. 8h09 sur Europe 1, direction sur la porte d'Auteuil, le journal de Roland Garros. À suivre, à tout de suite.
Europe 1, le journal de Roland Garros.
8h10 sur Europe 1. Bonjour Corinne Boulou.
Bonjour Sébastien.
Votre journal de Roland Garros.
J'espère que la public français va être sur mon côté, ça va m'aider beaucoup. Ils vont dire ok, il parle français, il est sympa, allez, on est pour lui. Mardi, s'il vous plaît. Là, ça va, mardi.
Il a de l'humour, le russe numéro 2 mondial Daniil Medvedev. Il profite de l'absence des Français dans le tournoi pour s'attacher les faveurs du public. Et il en aura besoin demain, effectivement mardi, pour affronter en quart de finale le grec Stefanos Tsitsipas.
Le chiffre du jour, un ou une ?
Il ne reste plus qu'une seule joueuse du top 10 mondial dans le tableau féminin après l'élimination de l'américaine Serena Williams. Il s'agit de la tenante du titre, la polonaise Iga Świątek, 9e mondiale, plus que jamais favorite du tournoi.
Le qualifié du jour avant l'heure, c'est Matteo Berrettini.
Et oui, l'Italien 9e mondial a été propulsé en quart de finale sans avoir joué. Il aurait dû affronter aujourd'hui Roger Federer, qui a décidé hier de quitter le tournoi avant de disputer son 8e de finale pour conserver toutes ses chances de bien figurer à Wimbledon.
La Marseillaise du jour pour la dernière équipe de double française qui est présente dans le tournoi.
Elle a été entonnée par le public du cours Simone Mathieu et elle a résonné dans le stade hier pour saluer la qualification en quart de finale de la paire Nicolas Mahut-Pierre Hugerbert.
Et pour finir, Corinne, le match du jour entre les ténors du tennis mondial et les teenagers du tennis italien.
Lorenzo Musetti et Jannik Sinner vont défier du haut de leurs 19 ans les trentenaires Novak Djokovic et Rafael Nadal. Les deux jeunes pousses vont tenter de faire vaciller leurs aînés, mais c'est une mission quasi impossible pour notre consultant Cédric Pioline.
C'est vrai qu'il peut y avoir l'insouciance de la jeunesse maintenant. Le problème que ces deux joueurs italiens ont, c'est qu'en face, il y a Djokovic et il y a Nadal, qui eux sont, c'est même plus expérimenté, c'est qu'ils sont surexpérimentés avec le nombre de grands chelems qu'ils ont disputés et tellement l'habitude de gérer les 15 joueurs avec ce passage de la première à la deuxième semaine, où en règle générale d'ailleurs, c'est un petit peu le moment où ce type de joueur accélère, je dirais, allonge la foulée et vraiment devient encore plus difficile à battre parce qu'ils ont justement 3 matchs dans les pattes et que leur jeu est complètement réglé.
À noter que c'est la tenante du titre, Iga Świątek, qui jouera ce soir à huis clos pour la session nocturne face à l'Ukrainienne Kostyuk.
Voilà, vous ne ratez rien sur Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Et Corinne Boulot, vous nous ferez vivre bien sûr les matchs tout au long de la journée. Il est 8h13.
Europe 1, Sébastien Krebs.
À suivre, Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Michel Barnier, l'ex-négociateur de l'Union européenne pour le Brexit. Il publie La Grande Illusion chez Gallimard.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
8h16, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité Michel Barnier, ancien négociateur de l'Union européenne pour le Brexit et membre du Conseil stratégique des Républicains.
Bienvenue à vous et bonjour Michel Barnier.
Bonjour, bonjour aux éditeurs d'Europe 1.
Avant d'évoquer avec vous la situation économique et politique française et européenne et votre livre intitulé La Grande Illusion chez Gallimard, les propos de Jean-Luc Mélenchon ont provoqué un vif tollé. Ce dernier a affirmé hier que nous aurons forcément un grave incident ou un meurtre, cela a été Mera en 2012 et que tout était écrit d'avance pour la présidentielle, afin de montrer du doigt les musulmans. Est-ce que pour vous, M. Barnier, Jean-Luc Mélenchon est encore dans le champ républicain ?
À cet instant, je pense aux victimes, à leurs familles. Les deuils sont toujours là, les blessures sont toujours là. Et je trouve indigne que l'on instrumentalise ces attentats, ces drames, cette douleur qui est toujours là, à des fins d'argumentation politique ou de conjoncture politique, dont je vois pas bien l'intérêt d'ailleurs. Donc ce sont des propos que je trouve indignes de la République, indignes du respect que l'on doit aux victimes.
Et indigne de la République, dites-vous. Ma question était, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, qui est candidat à la présidentielle, qui a un poids quand même qui est le sien dans le système politique français, est encore dans ce champ républicain selon vous ?
Personne ne peut dire que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un élu républicain. Mais je trouve que les propos qu'il a tenus pour le besoin d'une démonstration ne sont pas dignes du respect que l'on doit aux victimes de ces attentats.
Nous ne sommes pas sortis encore définitivement, bien sûr, Michel Barnier, de la crise pandémique toutefois. Et ça fait du bien aussi d'entendre quelques bonnes nouvelles ou quelques signes. La consommation des ménages en France se maintient. L'économie française redémarre déjà. Et si vous avez écouté le journal de 8h tout à l'heure, eh bien, la France attire de nombreux investissements. Comment vous expliquez cette résistance hexagonale ?
D'abord, c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait cette reprise, même s'il y a évidemment un effet de rattrapage. Les Français ont besoin de retrouver une vie normale. Je suis sur le terrain chaque semaine, pendant 3 jours, cette semaine dernière en Bretagne, la semaine d'avant dans le Grand Est. Je serai en Occitanie cette semaine et on voit bien partout que les entreprises ont besoin, ont envie de redémarrer. Donc c'est une très bonne nouvelle que cette reprise, même s'il y a un effet de rattrapage. La question c'est comment vous transformez cette de rattrapage conjoncturel au sortir, et nous ne sommes pas encore complètement sortis de cette crise terrible du Covid, comment on le transforme en une relance durable, en une croissance durable. Et donc, il va falloir mobiliser d'autres moyens.
C'est-à-dire ? Parce que hier, sur cette antenne, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a affirmé, par exemple, qu'on a échappé à la vague de faillite parce que le gouvernement a protégé l'économie et qu'il va continuer à l'accompagner.
Oui, mais toutes ces mesures de protection conjoncturelle, le chômage partiel que le gouvernement a bien fait d'activer, ça ne peut pas durer éternellement. Dès l'instant où nous retrouvons une reprise et que ce rattrapage se confirme. La question, c'est comment vous faites le pari de l'activité? Ce pays a besoin de redémarrer. Il a des problèmes, nous avons des problèmes structurels très graves. Il a aussi des ressources et des ressorts, notamment dans ces petites et moyennes entreprises sur le terrain. La croissance, elle reviendra, à mes yeux, des territoires. Alors, elle ne tombera pas d'en haut, elle reviendra d'en bas. En revanche, le gouvernement, le futur gouvernement, devra encourager cette reprise et cette relance durable par des outils nouveaux, et je pense notamment à des fonds souverains ou un fonds national souverain, peut-être un grand emprunt, investir ensemble dans l'avenir. Voilà la question.
Un grand emprunt donc à lancer pour stimuler cette activité, cette reprise.
Vous voyez bien, la collecte d'épargne est considérable. Les Français épargnent beaucoup, ils ont d'ailleurs beaucoup épargné pendant cette crise. Moi, je pense qu'il y a le moyen d'orienter cette épargne vers l'investissement, que les Français investissent dans la France. Et notre pays doit avoir aussi, pour avoir cet élan collectif, une ambition très forte, qui est, de mon point de vue, d'être ou de devenir, dans 10 ou 12 ans, la première puissance économique, agricole et écologique d'Europe.
Évidemment,
c'est possible, ouais. C'est notre portée, je connais bien.
L'agriculture notamment,
pas seulement l'agriculture,
oui,
il y a des tas d'atouts
ministre,
dans notre pays. Dans les technologies, il y a des milliers de petites entreprises qui ont la capacité d'être parmi les premières d'Europe, et je pense que notre pays doit avoir cette ambition collective, en tout cas moi je veux porter cette ambition.
Mais le président,
que la France
ne
soit la première
pas,
puissance
Barnier,
européenne.
Est-ce que Emmanuel Macron a cette ambition? Parce que lui, il veut évidemment stimuler cette activité, cette reprise par la réforme des retraites, stimuler ainsi finalement le travail. Est-ce que c'est un volontarisme que vous encouragez?
Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on veut faire la réforme des retraites pour faire repartir l'économie. Ce sont des questions différentes.
Travailler plus longtemps, ça peut être aussi un stimuli, évidemment, pour l'économie.
D'une manière ou d'une autre, il faudra dire la vérité aux Français. Avec le temps de vie qui s'accroît, le temps de travail qui s'allonge, on va devoir travailler plus longtemps. Donc il faudra dire cette vérité. Mais avoir le débat sur les retraites, qui est indispensable pour sauvegarder notre système de retraite, c'est un sujet qu'il faut traiter au bon moment.
Est-ce que c'est le bon moment? Parce que le président semble évoquer cette dernière année qui ne veut pas être une année d'immobilisme pour lui.
Oui, je sens bien qu'il y a une forme d'agitation, là, maintenant, à quelques mois des élections présidentielles. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on a la sérénité nécessaire? Moi, je pense qu'il faut ouvrir ce débat, il faudra le mener, je viens de vous le dire. Ce n'est pas le seul, mais je trouve qu'il y a plein d'idées qui sortent en ce moment, de la suppression des préfets que je ne comprends pas et que je n'approuve pas à cette réforme des retraites. Est-ce que c'est le bon moment? Oui, peut-être pour poser la question.
Monsieur
Barnier, qu'on aurait pu la poser.
Mais oui, mais est-ce qu'il y a un bon moment? Est-ce qu'il y a un bon moment? Est-ce que vous craignez, dites-nous ce que vous craignez, est-ce que vous craignez une rentrée sociale mouvementée, finalement?
Je souhaite que l'on rassemble les Français, que l'on évite les débats qui divisent, comme ceux que M. Mélenchon a ouverts. Les Français sont trop dos à dos actuellement. Il faut jouer plus collectivement. Il faut que la gestion du pouvoir soit moins solitaire et parfois arrogante. Je pense qu'il faut que ce pays soit mis ensemble et que le pays soit rassemblé. C'est l'urgence actuellement. Et donc se concentrer sur les sujets importants qui sont ceux de l'autorité de l'État, de respect de...
Donc
et
c'est
de
un préalable pour vous. Avant toute réforme, là, pour cette dernière année, compte tenu de... contexte du pays, de la crise dont nous sortons, vous dites rassembler d'abord avant de réformer.
Qui pense que cette réforme des retraites qui n'a pas été réussie, qui a été manquée, pourrait se faire maintenant en quelques mois,
menée, hein.
En plein débat présidentiel, personne ne le pense. Enfin, qu'on en parle, c'est très bien. Tout débat a une valeur pédagogique. Mais je pense que le grand débat doit être ouvert avec plus de sérénité au lendemain des élections présidentielles et sur la foi et sur la base de ce qu'ont dit les différents candidats.
Voyons également ce qui se passe évidemment outre-Manche, et puis notamment au Royaume-Uni, avec votre livre La Grande Illusion chez Gallimard. D'abord, une question, Monsieur Barnier, conséquence directe du Brexit, des Européens refoulés à l'entrée du Royaume-Uni, des étudiants, des travailleurs placés même en détention provisoire à leur arrivée à l'aéroport. C'est quoi? C'est une forme de zèle, selon vous?
Oui, j'ai vu cette situation à quelques frontières. Probablement des fonctionnaires qui n'ont pas reçu d'instruction ou le temps de l'adaptation. Mais comme je l'ai dit dans ce livre, La Grande Illusion, où j'ai décrit jour par jour, j'espère de manière intéressante et imagée, cette longue négociation de 4 ans et demi, le Brexit a des conséquences considérables qui ont été sous-estimées, qui n'ont pas été expliquées au Royaume-Uni et pas préparées, humaines, sociales, économiques, financières, techniques, juridiques. Et donc on est là. Le Brexit, c'est pas, on dirait en anglais, ce n'est pas business as usual. Il y a beaucoup de changement. Alors, bien sûr, nous avons avons évité, grâce à cette négociation, de mettre des taxes, des tarifs douaniers sur les échanges. Ça protège l'agriculture, l'emploi, les exportations. Mais on n'a pas empêché, au contraire, on a recréé des barrières avec le Royaume-Uni puisqu'ils ont quitté le marché unique.
Certes, mais la reprise économique est plus rapide qu'en Europe, au Royaume-Uni. Un exemple précis, Monsieur Barnier, le secteur des services britanniques en particulier explose, laissant entrevoir un taux de croissance, entendez bien, du PIB du Royaume-Uni spectaculaire au second trimestre 2021. Le Royaume-Uni post-Brexit s'en sort bien.
Tant mieux.
Mais c'est pas ce qu'on nous avait dit. On nous avait dit que ce sera une catastrophe.
Là, vous êtes au Royaume-Uni comme en France aujourd'hui, avec peut-être un peu de décalage dans une reprise conjoncturelle et un effet de rattrapage. Tant mieux pour le Royaume-Uni. Moi, j'ai mené cette négociation avec beaucoup de respect, on l'a noté, beaucoup de calme, même si j'ai subi beaucoup de campagnes de division et de contournement. Je souhaite le progrès, je souhaite le succès au Royaume-Uni. Mais ce que je sais, c'est que tout seul aujourd'hui, puisqu'il a choisi d'être solitaire, ce sera plus difficile qu'être ensemble.
Mais on a envie de comprendre, Monsieur Barnier.
Je le dis à nos auditeurs, pour l'idée que je me fais de la souveraineté nationale, pour l'idée que je me fais de nos pays et de leur capacité de résister, de se défendre face aux États-Unis, à la Chine ou à la Russie.
Le Royaume-Uni vient d'annoncer un accord de libre-échange avec trois pays européens, la Norvège, l'Islande, Liechtenstein, le tout pour renforcer son rayonnement commercial. En quoi le Brexit a été une catastrophe, comme l'ont dit, non pas vous, certains politiques et même éditorialistes.
Non mais attendez, que le Royaume-Uni signe des accords avec tous les pays avec lesquels nous étions liés, et il était lié avant, il doit tout reconstruire. Savez-vous qu'ils ont quitté, en quittant l'Union européenne, 600 accords, dont ceux-là, avec le Liechtenstein, l'Islande ou la Norvège? Il faut qu'ils reconstruisent les accords. C'est normal, c'est nécessaire pour eux. Mais il n'y a rien de plus et rien de mieux qu'avant. Donc je ne vois pas l'intérêt de comparer le Brexit avec ça. C'est une conséquence du Brexit. C'est une conséquence du Brexit. Il faut dire la vérité aux électeurs et aux citoyens. Je dis simplement qu'être ensemble aujourd'hui, c'est une chance pour notre souveraineté nationale, pour la défense de nos intérêts, pour ne pas être tout simplement sous-traitant ou sous influence des Chinois et des Américains. Moi, je ne me suis pas engagé en politique derrière le général de Gaulle il y a quelques années pour qu'on soit sous-traitant.
À vous entendre, depuis tout à l'heure, il y a un mot en tous les cas qui revient souvent derrière votre discours, Monsieur Barnier, c'est le mot d'unité. Vous êtes un montagnard et un bon montagnard, vous mettez un pied devant l'autre. Mais l'objectif, évidemment, c'est 2022. Comment vous donnez-nous un argument ce matin selon lequel vous seriez l'homme de cette unité à droite?
Est-ce que c'est à moi de dire cela? J'ai un parcours politique fait d'expériences locales et de respect pour les gens qui travaillent dans les territoires. J'ai été élu président de la Savoie pendant presque une vingtaine d'années, à la fois plusieurs fois membre du gouvernement, et c'était un grand honneur. J'ai cette expérience européenne et internationale. Je veux mettre tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait, tout ce que je peux faire au service de mon pays, d'abord de ma famille politique. Et puis j'espère qu'il y aura une réflexion lucide pour aboutir à la création d'une équipe de France dans cette famille politique. Nous avons la capacité, il y a beaucoup de talent dans cette famille, pas encore de force collective, mais il y a beaucoup de talent. Je voudrais participer à les mettre autour de la table et qu'on désigne un chef d'équipe. Voilà ce dont il est question, parce que je pense que l'équipe de notre pays a besoin d'une droite républicaine forte qui travaille avec le centre. Nous avons besoin de cette force d'alternance.
Et on note que vous faites référence à votre famille politique, mais qu'est-ce qui vous différencie d'Emmanuel Macron ?
J'ai pas envie de me déterminer ou de me différencier. Je n'ai jamais fait de campagne électorale. J'en ai fait beaucoup dans ma vie contre les autres. Je pense que les Français ont envie de voter pour un projet, pour quelqu'un positivement. Probablement, je vous l'ai dit tout à l'heure, une question de méthode d'abord. Il y a dans ce pays trop de gens dos à dos, trop de divisions, trop de fractures, et je pense que ça n'a pas été bien de gérer le pays de manière solitaire, en ne faisant pas confiance au Parlement, en ne faisant pas confiance aux élus locaux, en ne faisant pas confiance aux syndicats. Et je pense que ce pays a besoin qu'on fasse appel à son intelligence collective.
Le candidat de la droite n'est-il pas déjà à l'Élysée, Monsieur Barnier ?
Je ne crois pas. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là.
Emmanuel Macron n'est-il pas un homme de droite ?
Ce n'est pas à moi de le dire. Je veux dire, il y a des réformes qu'il a pu faire ou qu'il a tentées qui peuvent rejoindre celles que nous souhaitons. Moi, je pense au contraire que quand on regarde ce que fait l'exécutif actuel, notamment dans la région PACA, où il y a un bon président, Renaud Muselier, qu'on a essayé de déstabiliser par des opérations qui n'étaient pas
il s'est un peu déstabilisé tout seul, à voir les choses en vrai.
Je ne le crois pas. Je pense qu'il mérite la confiance des électeurs de
cette
grande région.
Vous continuez à le soutenir.
Je le soutiens sans hésitation. Mm-hmm. Et je pense et je souhaite qu'il soit réélu. Vous voyez bien que
vous voyez bien les obstacles qui se dressent devant lui.
Le jeu de l'exécutif a été de faire le vide réside entre lui et Madame Le Pen, et je pense que c'est jouer avec le feu.
Merci Michel Barnier d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. On rappelle le titre de votre ouvrage, La Grande Illusion, chez Gallimard. Merci encore.
Il est 8h29 à suivre le rappel de l'info avec Marion Calais. Et place à votre nouveau rendez-vous matinal 8h30, le journal de l'Euro. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Il est 8h32, le rappel de l'actualité avec vous Marion Calais.
Un serpent de mer depuis plus de 8 ans, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes de retour à partir d'aujourd'hui devant les députés. L'objectif du texte est de la rendre accessible aux femmes seules et aux couples de lesbiennes. L'ouverture ce lundi du procès en appel de l'affaire Air Cocaïne, deux pilotes français jugés pour trafic de drogue. 680 kilos de cocaïne avaient été découverts dans leur avion en mars 2013 en République dominicaine. Ils avaient été condamnés à 6 ans de prison en première instance. Il ne pourra pas tout faire tout seul, les mots de Didier Deschamps ce matin sur Europe 1 au sujet de Karim Benzema. Et si le sélectionneur reconnaît que l'attaquant du Real Madrid prend beaucoup de place aujourd'hui, il assure qu'il n'y a pas le moindre souci dans le groupe.
Merci Marion Calais. La météo, Laurent Cabrol, il va continuer de faire chaud aujourd'hui.
Oui, il fera beau, il fera chaud sur l'ensemble des régions de France. Toutes les régions qui bordent l'Atlantique, mais il y a aussi la région parisienne, la Champagne-Ardenne, les régions du Sud-Ouest. Et puis, j'ai oublié la Bretagne depuis ce matin. Ami breton, pardonnez-moi, j'ai oublié de vous dire qu'il allait faire beau en Bretagne. Non, voilà, la Bretagne. Et puis, pour ceux d'entre vous qui habitent la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, la Bourgogne et bonne partie de la Bourgogne et de l'Auvergne, eh bien là, nous aurons des orages qui vont cumulifier dans le courant de l'après-midi, et puis qui ensuite vont disparaître. Voilà, j'ai tout dit. Le site bassin méditerranéen, allez, un peu de soleil, ou beaucoup de soleil, pardon, et un peu de vent. Température maximale entre 21 et 29 degrés, 26 à Paris, 29 à Nîmes, 21 à Caen pour les températures les plus fraîches, 21 à Caen, comme à Clermont et à Biarritz.
Bon, bah ça y est, c'est l'été. Merci Laurent Cabrol. 8h33. Et notez bien ce nouveau rendez-vous tous les matins, désormais le journal de l'Euro jusqu'au 11 juillet, jusqu'à la finale. Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On ne ratera rien grâce à vous et on démarre ce matin avec un beau souvenir.
Oui, en espérant porter chance. Hein. C'était il y a 21 ans à Rotterdam, l'équipe de France est en finale de l'Euro 2000 face à l'Italie, un partout à la fin du temps réglementaire, match irrespirable. L'équipe qui va marquer la première a gagné, on appelait ça le but en or. 103e minute, Eugène Saccomanno et Lionel Rosso sur Europe 1.
Qui reste, qui va redresser peut-être pour Rezegue qui frappe.
Oui, but, but à mort, but à mort. Rezegue, l'homme qui fait des miracles. Rezegue, l'homme qui a chaque fois.
Ah, on s'en laisse pas, le but en or de Rezegue il y a 21 ans.
Déjà.
21 ans que la France attend de revivre ça à l'Euro. Ça pourrait de nouveau arriver cette année.
Oui, et le trait d'union, c'est Didier Deschamps, capitaine en 2000, sélectionneur en 2021. Il l'a dit ce matin sur Europe 1, les Bleus, champions du monde en titre, comme à l'époque, sont logiquement favoris, avec l'attaque de feu, évidemment, Griezmann, Mbappé, Benzema, Giroud et les autres. Et puis des cadres indispensables comme N'Golo Kanté, la mascotte, brillant, infatigable, mais aussi très discret. Et le milieu de Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions, était en conférence de presse hier à Clairefontaine, presque gêné de l'engouement qu'il suscite.
Parfois, on peut avoir une image, un peu trop belle, un peu trop jolie. Mais au final, je suis juste, quelqu'un de normal, un joueur parmi tant d'autres. Et il n'y a pas à dire que je suis, le plus gentil, le plus sympathique, le plus juste un joueur comme les autres.
Voilà, N'Golo Kanté qu'on espère retrouver dès demain au Stade de France pour le dernier match de préparation des Bleus avant le début de l'Euro. France-Bulgarie, 21h10, à vivre bien sûr sur Europe 1. La délégation française prend ce matin la direction d'Enghien-les-Bains, dans le Val d'Oise. C'est la résidence classique, Sébastien, la veille d'un match à Saint-Denis. C'est plus pratique pour circuler. Conférence de presse à 17h, puis entraînement sur la pelouse du Stade de France.
L'équipe de France au cœur des débats, y compris chez les anciennes légendes.
Oui, elles étaient réunies pour l'inauguration du stade Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises hier. C'est Michel Platini en personne qui a donné le coup d'envoi, le triple ballon d'or, a ensuite accordé une interview à Cyril de la Morinerie. Question sur le revenant Karim Benzema. Est-il le grand joueur qui manquait aux Bleus ? Réponse de Platini, toujours aussi taquin avec les journalistes.
Si vous aviez joué 9 ans au Real Madrid, je dirais de vous que vous êtes un très bon joueur. Pareil. Certainement pas, mais d'un joueur qui avance du Real Madrid quand même. C'est pas l'AS Colombey les deux églises, quoi, Benzema.
On termine avec des nouvelles des futurs adversaires des Bleus.
Oui, l'Allemagne, le premier adversaire à l'Euro dans 8 jours, joue ce soir à Düsseldorf son dernier match de préparation face à la Lettonie. Le Portugal de Cristiano Ronaldo qui a tenu l'Espagne en échec samedi 0-0 jouera face à Israël mercredi soir. Et puis n'oublions pas la Hongrie qui accueillera l'Irlande également mercredi soir. Dernière nouvelle qui concerne l'Espagne, l'emblématique milieu de terrain Sergio Busquets positif au Covid. Pour l'instant, il n'est pas forfait pour l'Euro, mais on espère bien sûr pour les Espagnols qu'il n'aura pas contaminé d'autres équipiers. Ça serait là, pour le compte, vraiment problématique.
Jean-François Pérez, le journal de l'Euro. Ce rendez-vous donc tous les matins désormais à 8h30. À suivre sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed et notre planète avec Fanny Agostini. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Et à 8h38, Jimmy Mohamed m'a rejoint. Bonjour docteur.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre santé avec une préoccupation ce matin qui porte sur la santé des enfants. L'alerte est venue de l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans son dernier rapport, l'OMS pointe un niveau inquiétant de surpoids chez les enfants.
Oui, l'OMS a étudié le poids d'enfants de 36 pays différents et les résultats sont assez inquiétants car près de 30% d'entre eux sont en surpoids avec quasiment autant de garçons que de filles touchées. Sauf qu'évidemment, on ne parle absolument pas d'un critère esthétique car les enfants doivent avoir pour leur santé un poids normal. Un enfant qui est en surpoids ou obèse, eh bien c'est un enfant qui fera plus d'apnée du sommeil à l'adolescence, plus d'hypertension artérielle, mais aussi plus de maladies métaboliques comme du diabète, sans parler des conséquences psychologiques liées à l'isolement et à l'image de son corps qui peut être renvoyée, en particulier à l'ère des réseaux sociaux qui déforment la réalité de ce que doit être le corps d'une jeune fille ou d'un jeune homme. L'OMS considère d'ailleurs que l'obésité des enfants constitue l'un des plus grands défis pour la santé publique au XXIe siècle.
Surtout qu'il existe des stratégies efficaces dans la lutte contre le surpoids infantile.
Oui, car la principale cause de surpoids et d'obésité de l'enfant, eh bien, c'est un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et les calories dépensées. En clair, il faut bouger plus et mieux manger. On peut imaginer d'ailleurs l'impact de la pandémie sur le poids, car les enfants, et en particulier les adolescents, ont été beaucoup moins actifs qu'auparavant. Alors, le message à retenir, c'est qu'il ne faut pas faire de régime aux enfants, mais plutôt un rééquilibrage alimentaire. Plus de produits maison, moins de produits industrialisés, sucrés ou gras, et forcément plus d'activités sportives. Je vous rappelle d'ailleurs les recommandations. 1 heure d'activité physique par jour, tous les jours, sauf qu'à peine 20% des ados respecteraient ces recommandations.
Ah oui, une heure par jour. Les pouvoirs politiques ont aussi leur rôle à jouer.
Oui, car la réduction du surpoids a été observée dans certains pays qui ont su mettre en place des mesures comme taxer les boissons sucrées, ça a été fait en France, durcir les règles de publicité pour les produits gras, sucrés ou salés, ou encore développer des cours d'éducation physique. Et puis, peut-être aussi corriger certaines inégalités sociales, car les enfants et les adolescents ne sont pas en mesure de choisir le milieu dans lequel ils vivent, ni les aliments qu'ils vont manger. On comprend donc que la lutte contre le surpoids et l'obésité passe aussi par la lutte contre les inégalités sociales.
Ouais, 30% des enfants en situation de surpoids dans les 36 pays étudiés. C'est un chiffre assez colossal. On retient le conseil, 1 heure de sport par jour. Merci à vous, docteur Jimmy Mohamed. On vous retrouve à 15h dans son rendez-vous avec Mélanie Gomez, avec de la musique.
Oui, le pouvoir de la musique sur votre cerveau. Vous allez voir que c'est une science et que c'est pas simplement un hobby, même si on adore tous écouter de la musique.
À tout à l'heure, 15h. 8h41, bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Des solutions positives avec vous chaque matin pour l'environnement, notre planète. Et aujourd'hui, le numérique au secours de la planète. Vous nous dites qu'on peut même œuvrer pour l'environnement en restant assis sur son canapé.
Oui, c'est ce que je vous propose ce matin. Nettoyer les océans ou ramasser les déchets tout en restant assis confortablement sur votre canapé grâce à votre smartphone. L'idée vient du fondateur de Lilo, le navigateur de recherche qui finance des projets de conservation de la nature avec les revenus générés par la publicité. Ce jeu mobile s'appellera My Lovely Planet et il devrait sortir en novembre prochain. Au menu, la possibilité d'entretenir son île virtuelle, de construire un écolieu sur une planète imaginaire et en parallèle, par exemple, des arbres seront planté dans le monde réel, rien qu'en jouant à ce jeu par le biais d'associations qui reçoivent directement l'argent généré par My Lovely Planet.
Bon, c'est pas juste un gadget, une lubie d'utiliser les jeux vidéo comme solution pour protéger la nature ?
Alors, je pense qu'il faut nuancer. D'un point de vue empreinte énergétique et gestion des données, les jeux vidéo ne sont pas la référence éthique et écologique. Mais leur marché est immense et voué à grandir encore. Alors, pourquoi ne pas le détourner intelligemment ? Rendez-vous compte, sur l'année 2019, les jeux vidéo sur mobile ont généré 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et les joueurs du monde entier ont cumulé 5 millions d'années de temps de jeu. Ce chiffre me rend vraiment dingue. C'est vraiment le cumul des heures passées à jouer multiplié par tous les joueurs du monde entier, cela vous donne vraiment 5 millions d'années de temps passé rivés sur nos écrans. Alors avec 2,5 milliards de joueurs mobiles dans le monde, il y a un véritable potentiel pour sensibiliser massivement aux enjeux écologiques et les financer avec des fonds qui iraient d'ordinaire partout sauf sur des projets vertueux.
Et pour vous, My Lovely Planet propose finalement d'aller plus loin que l'écrasante majorité des jeux qui sensibilisent à l'écologie.
Et oui, des jeux qui cherchent à sensibiliser aux enjeux environnementaux, il y en a beaucoup. Mais ils n'ont pas spécialement vocation à générer un revenu qui financera des projets concrets pour l'écologie. Ils font surtout de la sensibilisation. Depuis sa création en 2015, le navigateur Lilo rassemble 700 000 utilisateurs et il a dégagé 4 millions d'euros utilisés pour financer des projets strictement éco-responsables. Associer nos pratiques numériques au financement de projets écologiques peut être une manière pertinente de canaliser le temps croissant que nous passons en ligne vers des projets concrets et surtout utiles.
Et voilà, quand le jeu vidéo peut aussi aider à sauver la planète. Merci Fanny Agostini, à demain. Il s'installe avec Julie Nicolas Canteloup pour la revue de presque. C'est dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
8h47, c'est l'heure de retrouver la revue de presque de Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio, Sonia Mabrouk et son invité.
Eh oui, ma chère Julie, cher Mathieu, et oui, tout de suite, mon invité, Michel Barnier. On va passer sur le début de l'interview qui était particulièrement chiant, les 10 premières minutes, sur le Brexit et le rattrapage conjoncturel. Non, nous allons aller tout de suite, Michel Barnier, sur la seule question vraiment intéressante de cette interview. Pourquoi ce serait vous, Michel Barnier, le candidat à la droite? Faites-nous rêver, fais-nous rêver, Michel. Fais-nous kiffer, donne-nous ton CV.
Mabrouk, je m'appelle Michel César Augustin Barnier. Je suis né le 9 janvier 1951. Je pesais 3,2 kg. Je suis né à la tronche. De là à vous dire que j'ai la tronche de l'emploi, ce n'est pas à moi de le dire. Je suis savoyard. Je suis bien coiffé, joli costume. J'étais au RPR, je fais sérieux, je suis montagnard et j'ai en plus un selfie avec Jean-Claude Killy. Voilà.
Bon. C'est tout, Michel ? Bah écoute, la droite est mal barrée. De toute façon, la droite, elle est déjà à l'Elysée. Et blanc, voilà, c'était ma punchline. À vous, Julie.
Merci, merci beaucoup, Sonia. Allez, on va passer donc au titre de l'actualité avec Stéphane. Sébastien Krebs.
Oh là. Non, arrêtez. Stop, c'est Mathieu Béliard. Mathieu Béliard, bonjour à tous. En direct de mes vacances. Et oui, le président nous a demandé, vous le savez, de passer des vacances en France. C'est pourquoi je suis à Fort-de-France. Fort-de-France,
oui,
c'est la France. Sébastien, cher Sébastien Krebs, Sébastien qui est un copain, je t'écoute depuis 7 heures, t'es super, mais je vais quand même faire les titres pour le premier jour, ça va te rassurer.
C'est
voilà, il ne faut pas te lancer sans les petites roulettes. Allez, c'est pas que j'ai pas confiance, c'est juste que non, en fait, c'est pas que j'ai pas confiance, Sébastien, je vais tout dire, c'est juste que l'imitateur n'a pas vraiment bossé ta voix, donc ça viendra peut-être dans la semaine. Allez, Europe 1, écoute le monde changé, écoute surtout le monde en vacances, mais qui bosse un peu quand même. Allez, on arrête la musique des bronzés, c'est vrai que ça fait pas très sérieux pour les titres. La vraie nappe des titres, c'est parti.
Allez.
3-4, tu prends des notes, hein, Sébastien. L'info du jour, c'est plus que deux dodos avant la réouverture des salles de sport. Ah, oui, je sens que ça existe un peu moins que la réouverture des terrasses, les salles de sport. Entre picoler et être moche, et faire du sport et être beau, on a clairement choisi notre camp. L'autre info, c'est que Didier Deschamps était notre invité à 7h40. D'ailleurs, ce week-end, on a vu la photo officielle de l'équipe de France, et surprise, il y a N'Golo Kanté. Et oui, il est tellement poli qu'on pensait qu'il allait se proposer pour prendre la photo lui-même. Non, il est sur la photo.
D'accord, merci Mathieu, merci. Le prince Harry et Meghan Markle annoncent la naissance de leur fille. Bonjour Stéphane Bern.
Oh oui, bonjour, attendez, je ne sais plus où j'en suis. Allez, j'enlève ma casquette de Bernard Pivot des expressions désuètes ou enfilées que je traite chaque matin sur votre antenne. Et la nôtre aussi. Pour enfiler celle des spécialistes, ma casquette des spécialistes de la monarchie britannique. Donc nous y allons, je vous dis tout. Un royal chien vient d'être pondu. Ma chère Julie, oui, c'est une fille. Elle s'appelle Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Elle pèse 3,5 kg, dont 300 grammes de plus que Michel Barnier. Elle a 3 poils sur le caillou, comme bientôt son papa. Je suis taquin. Et elle fait rien qu'à chouiner comme sa mère Meghan. Bref, vous l'avez bien compris, c'est bien la fille de ses parents.
Alors, la petite Lilibet est 8 huitième dans le rôle de l'accession au trône.
Oui, alors comment vous dire huitième dans le rôle de l'accession au trône? Autant vous dire qu'elle est mal barrée, la gamine, pour devenir queen. Elle est en queue de peloton, nous diraient nos amis spécialistes du cyclisme. Elle part de trop loin. Vous vous rendez compte que Charles aux grandes oreilles est deuxième et qu'il va sûrement mourir de vieillesse avant de choper le job. Non, non, Charlie, c'est le seul stagiaire de 72 ans au monde, il faut le savoir. En tout cas, félicitations aux parents, déjà deux rejetons. Plus que deux, et ils pourront glander et toucher les allocs.
Alors Stéphane, elle est britannique ou américaine, cette petite en
fait? Alors, excellente question. On n'en sait rien du tout, on ne comprend pas ce qu'elle dit.
Bon, ben ça viendra.
Pour l'instant, ça se résume à du...
Merci. Merci Stéphane Bern.
J'ai traduit.
Bruno Le Maire donnait une longue interview au JDD hier. Bonjour, monsieur le ministre.
Oui, bonjour, madame Julie. Bonjour.
Oui,
oui, oui, oui. Bonjour, monsieur Béliard. Et bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Ça y est, dans deux jours, tout va rouvrir. Ça va être un des plus beaux jours de ma vie. Je vais pouvoir arrêter d'être de gauche et filer du pognon à tout le monde.
Alors, c'est vrai, dans cette interview, vous annoncez la fin du quoi qu'il en coûte.
Voilà, mais rassurez-vous, les gens.
Vous allez les aider quand même?
Non, rien, Walou. C'est la fin du quoi qu'il en coûte. Mais rassurez-vous, nous entrons dans une nouvelle ère. L'ère du quoi qu'on rembourse. Car maintenant, il va falloir renflouer les caisses, les feignasses. J'espère que vous avez bien profité des rien glandés pendant un an devant Netflix. Parce que maintenant, il va falloir se retrousser les manches et aller au turbin.
Alors, Bruno Le Maire, on va revenir sur vos propos très optimistes. Vous avez dit la relance, c'est l'affaire de tous. Bonjour, Emmanuel Macron.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout à fait, je suis d'accord avec. Mon ministre de l'économie et des finances, avec Bruno, vu que c'est moi qui lui ai dit de le dire. Bon, je suis forcément d'accord. Effectivement, la relance est l'affaire de tous. Mmh. De toi, plus moi, et tout seul, tous ceux qui sont seuls, et plus tous ceux qui sont de droite. Ça vous rappelle une chanson?
Oui, d'ailleurs. Oui, on a bien compris. Ouais.
Voilà, à propos de bosser plus, je note l'absence de M. Béliard ce matin. Hein, quand j'ai dit la semaine dernière « les vacances, c'est en France », ça ne voulait pas dire « barrez-vous en vacances demain matin, M. Béliard hein, ». Mathieu Béliard a donc du coup mal interprété mon exhortation à passer des vacances, comment vous dire, franco-françaises.
Oui, mais il revient la semaine prochaine, hein, Mathieu. Alors, pour participer à la relance, Bruno Le Maire nous demande d'aller au cinéma, au théâtre, au resto, d'acheter des livres aussi.
Oui, tout à fait, voilà, aller voir les Tuches 4, picoler en terrasse, c'est dans vos corps, me semble-t-il, chers amis concitoyens, on ne vous demande pas un effort surhumain non plus. Hein. Et achetez des livres aussi. Mm-hmm. Je ne vous demande même pas de les lire, mais achetez-les, c'est déjà bien.
Merci, monsieur Macron. Le Premier ministre est avec nous maintenant. Bonjour, Jean Castex.
Bonjour.
Alors, on attend avec impatience le 9 juin. On va retrouver de nouvelles libertés avec des restos qui ouvrent à l'intérieur, la fin du télétravail. Les Français peuvent retourner sur leur lieu de travail. Hein,
Non, c'est pas du bonheur. Vous rendez compte, vous pouvez retourner au travail. Vous levez à 5h14, prendre les transports en commun à 6h, retrouver les joies de la cantine. À vous, le céleri rémoulade et la macédoine à volonté. C'est le retour, madame Julie, monsieur Grebs, des jours heureux. Le retour des happy days.
Alors, une autre bonne nouvelle, le couvre-feu qui passe de 21h à 23h. Par contre, les discothèques restent fermées.
Oui, parce qu'on est tout de même cohérent et logique au gouvernement. Le Niche Club, ça ouvre sur les coups de, disons, il y a longtemps que je n'y ai pas mis les pieds sur le dance floor. Ça ouvre sur les coups de 22h30, 22h45. Et comme le couvre-feu est à 23h, nous nous sommes dit en Conseil des ministres, de façon responsable, qu'une soirée de 20 minutes, c'était trop court. On a longtemps débattu, ça a duré plus de 2h15, vous savez. Et alors, je sais que les jeunes Français rêvent pourtant de se déhancher sur du boogie-woogie, ou du hip-hop, du bip-bop, mais il faudra encore patienter, jeunes gens.
Oui, encore patienter avant de twister. Merci, Jean Castex. Voilà. Un rapport de l'inspection du travail du Rhône a semer le doute. Les trains sont-ils des clusters ambulants? Le ministre des Transports se veut rassurant. On va en parler avec notre monsieur SNCF, Monsieur Régis, bonjour.
Hey, bonjour à tout le wagon. Hey, bonjour au jeune chef de gare du jour, Monsieur Krebs. Il a changé les heures de ses trains. Avant, c'était 5-7, maintenant c'est 7-9. Ça sent la grasse mat.
Alors, le syndicat Sudrail a usé de son droit d'alerte pour danger immédiat.
Oui. Oui, c'est un nouveau droit moderne. Oui. On n'avait pas utilisé celui-ci. On avait le droit de retrait. Oui. Le retrait. Mm-hmm. Droit de retrait, oui, le retrait.
Oui, allez.
Là, maintenant, le droit d'alerte pour mm-hmm. danger immédiat. Oui. Ça fait peur. Hein, le droit d'alerte, ça fait très science-fiction.
Oh oui. Alors, ça arrive pile après l'opération séduction de la SNCF. 5 millions de billets à 39 euros maximum.
Oui, mais tout à fait. D'un côté, il y a la direction qui dit « Venez prendre le train, c'est pas cher !» Puis de l'autre côté, les syndicats qui disent « Si vous prenez le train, il y a de grandes chances que vous chopiez le Covid !» Oui, on est comme un train, voyez. On a inventé le train avec deux locomotives qui essayent de tirer en sens inverse.
Non, mais est-ce qu'il existe un vrai souci de renouvellement
du coup,
de l'air ?
Du coup, ça n'avance pas beaucoup.
Oui. Est-ce qu'il y a vraiment un souci de renouvellement de l'air dans les wagons ?
C'est possible.
Ah bon ? Écoutez, faut peut-être étudier le problème.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, cher Julie Leclerc, oui. mais dans les wagons, c'est quasiment impossible d'ouvrir la fenêtre pour aérer.
Ça, c'est vrai, on a remarqué.
Ni la porte non plus, d'ailleurs, pour faire courant d'air, parce qu'il faut deux entrées d'air, la fenêtre et la porte. Oui. Alors, il y en a qui ont essayé, mais croyez-moi, ils ont eu des problèmes. Mais non, c'est vous qui voyez.
On est bien avancé, tiens.
Nicolas Cantelou, la revue de presse que chaque matin. À demain et à demain, Julie. Bonjour, Philippe Vandel.
Bonjour, Sébastien.
Quel est le programme de Culture Média ?
Notre info média du jour autour d'Instagram qui lance un festival. Il s'appelle Voices. Le but, c'est de découvrir les conseils des créateurs de contenu pour s'en inspirer. Et tout ça gratuitement. On sera avec l'un des responsables des partenariats chez Instagram. Et puis l'influenceur Federico Stauffer. Ce soir, émission événement sur M6 en collaboration avec les ministères de la Justice, la Gendarmerie et le ministère de l'Intérieur. Ça s'appelle Appel à témoins. Et l'émission a pour but de relancer des enquêtes laissées de côté, des meurtres non résolus, des disparitions, en comptant sur l'aide en direct des téléspectateurs. Nous sommes avec un général dans l'émission, le général de gendarmerie Fabrice Bouillet et le producteur de l'émission Jean-Marie Gouax. Et puis, la comédienne Charlotte Valandré, on la connaissait pour ses rôles dans les séries Les Cordiers jugés flics ou encore Demain nous appartient, après évidemment Rouge baiser de Vera Belmont. Aujourd'hui, tout autre chose. Elle sort son premier album très réussi et ça s'appelle, j'adore ce titre, Plus de temps à perdre.
À tout de suite pour Culture Média, juste après le journal de 9h, je vous souhaite une très belle journée. À demain dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.